BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour, il est 9h, passé de 31 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business pour les experts. On est parti ensemble pour une heure de débat et de polémique. Et on va parler de votre argent ce matin avec, au fond, toujours la même question, c'est qui paie la facture. On va commencer avec un sujet qui touche à la fois à l'égalité, la compétitivité et au compte en banque des Français, la transparence salariale. Bruxelles veut plus de transparence pour réduire les écarts de rémunération, notamment entre les hommes et les femmes. Très bien. Mais attention à ne pas transformer une bonne intention en machine bureaucratique supplémentaire. Alors, comment reconnaître le mérite, attirer les talents et garder une politique salariale dynamique si tout devient public? C'est le premier débat ce matin. Et puis, nous poserons une autre question. Pourquoi le salarié français voit-il le salaire brut généreux se transformer en aide beaucoup plus modeste? Peut-on enfin rapprocher les deux sans fragiliser notre protection sociale? Ce sera le deuxième débat ce matin. Un débat qui tournera autour de ce modèle. Ça aussi, ce sera le troisième débat. Un modèle social qui protège beaucoup, mais qui coûte de plus en plus cher. À Bercy, le chiffre qui fait peur en ce moment, c'est 6,2. 6,2%, c'est le montant du déficit qui pourrait être enregistré l'année prochaine si rien n'est fait. En cause, l'indexation de nos dépenses sociales sur l'inflation. Alors, est-ce qu'on a désormais un modèle hors de contrôle? Ce sera le troisième débat. Et puis quand même, allez, une bonne nouvelle dans tout ça. La bonne nouvelle, c'est que l'INSEE vient de réécrire une partie de l'histoire économique récente avec une spectaculaire révision de la croissance en 2023 et 2024. Alors, la France va-t-elle plus mal qu'on le dit ou finalement un peu mieux? Ce sera le dernier débat ce matin avec mes experts. Il est 9h33, on est parti ensemble pour une heure de débat. C'est les experts, allez, c'est parti. Avec autour de la table Rokhaya Pondy. Bonjour Rokhaya.
Bonjour.
Présidente de l'Ami Liaison. À vos côtés, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour tout le monde.
Éditorialiste aux Échos. Et Anthony Morlaix-Lavidali. Bonjour Anthony.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Économiste chez Rexecode. Alors je le disais, on va parler de votre argent ce matin, beaucoup de vos salaires, du pouvoir d'achat et de la croissance. On va commencer par cette histoire de transparence salariale. Le gouvernement avait jusqu'à dimanche pour transposer une directive dont on vous parle depuis longtemps sur BFM maintenant, sur la transparence salariale, un texte européen qui oblige les entreprises de plus de 100 employés à déclarer régulièrement tout écart de rémunération dès qu'ils sont supérieurs à 5% et qui doit permettre aux employés de demander des informations internes sur les salaires. Objectif, évidemment, à travail égal, salaire égal. Alors on voit que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre pour l'instant. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a indiqué ce matin, alors on n'aura pas la loi dimanche, hein, ça évidemment, mais le projet de loi devrait être envoyé au Conseil d'État d'ici dimanche au plus tard, promet-il. Anthony, je commence avec vous. Pourquoi ça coince cette histoire de transparence salariale? De prime abord, on se dit, bah, formidable, on va enfin pouvoir avoir un système objectif, objectivé et transparent pour les salariés.
Oui, alors il y a toute la problématique de la bureaucratie que tu évoquais, Raphaël. C'est de dire, on voit bien qu'on peut basculer dans un monde où en fait c'est la paperasse et c'est très compliqué. On est dans un pays où le sujet des revenus salariaux est quand même un gros problème. Ça cristallise quand même beaucoup d'attention. Et puis l'idée du travail égal, salaire égal, faudrait plutôt parler de à performance équivalente, salaire équivalent. Parce que la réalité,
c'est intéressant cette différence.
Et oui, parce qu'à travail égal, salaire égal, ça veut, on gomme presque l'idée de la performance et de l'incitation à être performant. Et ça, c'est un vrai sujet. On voit bien en France que ensuite, on finirait par dire, est-ce que tels ou tels écarts se justifient? En réalité, on a besoin pour créer de l'innovation et pour être dynamique dans une entreprise, d'avoir des écarts qui reflètent aussi une différence de performance entre salariés. Et ça, on est très peu à l'aise en France pour le justifier. Très rapidement, on bascule en disant, c'est probablement de la discrimination. Ben, pas forcément. Donc, il faut accepter aussi que les plus performants sortent par le haut d'un point de vue salarial. Et ça, on est très peu à l'aise en France pour l'admettre et le revendiquer. En tout cas, sur le papier, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Alors, beaucoup de choses déjà dans ce que vous nous dites là. D'abord, sur la paperasse, c'est la critique du patronat, hein, qui craint l'usine à gaz, Jean-Marc, autour de ce texte.
C'est plus une crainte, je pense que quand les gens qui ont regardé les textes de près disent que c'est absolument effrayant, parce que Travail égal, salaire égal, comment vous définissez le travail égal? Est-ce que c'est par poste? Est-ce que c'est par âge? Est-ce que c'est par fonction de l'entreprise? Enfin, vous voyez bien, vous avez tout de suite...
C'est compliqué.
Voilà. Et ensuite, ben, on veut rentrer tout le monde dans le même moule. Hein. On a exactement le même problème que celui qu'on avait eu pour la CSRD, c'est-à-dire qu'on veut appliquer les règles qui sont largement les mêmes pour tout le monde, alors que les situations sont évidemment très, très différentes. Donc, c'est très, très... Enfin, honnêtement, ça peut être une machine à gaz, et on sait que à Bruxelles, on a d'excellents experts, mais qui savent fabriquer des machines d'une bureaucratie absolument effroyable. C'est pas la première fois qu'on le voit.
Ça fait la fortune de La Mi-Liaison. Rocaille Apondi, je rappelle que vous êtes présidente des éditions La Mi-Liaison, spécialisée dans la matière juridique. Est-ce que cette directive est une promesse d'usine à gaz en termes de règles? Est-ce que ça va être compliqué pour les entreprises? Oui ou non?
Alors compliqué, oui évidemment. Moi je souhaiterais rappeler une chose, c'est que ça a nourri beaucoup de fantasmes.
Ah.
Quand on a parlé de transparence des rémunérations, tout le monde a imaginé qu'on allait placarder dans tous les couloirs
Exactement.
Les salaires des uns et des autres.
Qu'on allait connaître.
Ce que touche le voisin, le manager, c'est absolument pas ça.
Ah, alors
donc,
expliquez-nous.
Alors, il y a plusieurs choses. Un premier travail à faire au sein des entreprises, c'est de mettre en place des accords GEPP. La GEPP,
c'est-à-dire
la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui remplace la GPEC, hein, avant on parlait de GPEC, permet de cartographier les postes, d'identifier justement quelles sont les compétences clés, que ce soit des compétences, ce qu'on appelle les soft skills, donc plutôt comportementales,
oui.
Et les hard skills, les compétences techniques, métiers, pour ensuite identifier justement cette notion d'équité, d'égalité de traitement, à profil, expérience, expertise équivalente, on peut effectivement, on doit proposer un salaire équivalent. La deuxième chose, c'est que au moment de l'embauche, on doit apporter une transparence, une fourchette de rémunération. Alors la fourchette peut se transformer en râteau, hein, on peut
oui.
dire, voilà. C'est,
ça peut être plus ou moins large.
Ça peut être plus ou moins large. Donc oui, c'est extrêmement compliqué. Parce que
là, on laisse toute voilure, si je puis dire, à l'entreprise pour donner ce corridor où ça va être normé par des décrets. C'est toujours le risque après, on craint le gold-plating, c'est-à-dire
oui.
qu'on en rajoute des règles et des règles.
Bien
et des
sûr.
Règles.
Alors après, l'entreprise, elle rend des comptes à ses salariés, à ses représentants du personnel, les managers, hein, qui sont les premiers acteurs en proximité avec leurs équipes. Donc oui, c'est un gros, gros travail dans un contexte où le droit social en France, vous le savez, connaît depuis toujours une inflation normative exceptionnelle.
Eh oui. Bon, donc,
et c'est encore une défiance supplémentaire vis-à-vis du marché. C'est-à-dire, si à un moment donné, ouais. on croit quand même que le marché du travail fonctionne à peu près correctement et dans la capacité de réallocation de l'emploi, si vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment bien rémunéré ou en tout cas qu'une entreprise ne reconnaît pas vos talents à la hauteur de ce qu'ils sont, vous pouvez tout à fait partir chez le concurrent. Et ce n'est pas forcément à l'État en permanence de chercher à surréguler ou à vouloir organiser la manière dont les salaires sont définis. Et on a une grosse problématique de faire confiance dans l'allocation via le marché des salaires, des compétences du travail. Et ça, semble-t-il, c'est encore un frein supplémentaire à l'idée de la performance et de l'innovation. Et je crois qu'à long terme, ça nous freine plus qu'au contraire, ça ne permet l'égalité de tous et la bonne rémunération de chacun.
Alors,
Jean-Marc.
Là, je suis d'accord. Je pense qu'avoir des mesures pour aller vers un peu plus de transparence salariale, c'est pas quelque chose de honteux, c'est pas quelque chose qui empêche le marché de fonctionner.
Voilà, et puis est-ce qu'on est dans
on peut même soutenir l'inverse. On peut même dire que quand il y aura plus le marché, il a besoin de transparence et il fonctionne mieux quand il y a de la transparence. Donc, moi, je pense que derrière les raisons aussi pour rejeter cette avancée vers la transparence salariale, parce qu'effectivement, c'est pas l'affichage de la liste de tous les salaires de l'entreprise à l'entrée.
C'est pas la tyrannie de la transparence, quoi.
Ça n'est absolument pas ça.
Oui.
Je pense que derrière les réticences à avancer dans cette direction-là, il y a aussi des bonnes raisons qu'Anthony vient d'évoquer, mais il y a aussi des moins bonnes raisons. On sait bien que dans les entreprises, il y a parfois, dans les hiérarchies, dans les grilles salariales, il y a souvent des aberrations. Et ces aberrations, c'est pas dû à quelqu'un qui travaille mieux, ça peut être dû à quelqu'un qui est arrivé plus tôt ou plus tard.
Oui, mais est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'on vit dans ce monde-là,
oui,
Jean-Marc, encore?
Oui,
je vais poser une question provoque et je vais vous la poser, Rocaille. C'est compliqué pour un homme de la poser d'ailleurs, mais est-ce qu'on est encore dans un monde où il y a de grosses différences, des écarts salariaux importants entre les hommes et les femmes, selon les chiffres de l'INSEE, mais il y a toujours la macroéconomie et puis il y a les cas individuels. Mais l'écart salarial homme-femme est de 3,4%, si je ne dis pas de bêtises, à poste et temps équivalents.
Compétences.
Encore trop, et compétences équivalentes. Mais est-ce que dans le flux des nouveaux contrats, est-ce que dans la pratique professionnelle aujourd'hui, on est encore dans un monde où il y a des écarts colossaux?
Mais évidemment, c'est une réalité, c'est une responsabilité de gouvernance à l'échelle de chaque entreprise. C'est aussi une responsabilité dont s'emparent les représentants du personnel, puisque le dialogue social, moi je considère, c'est un levier de compétitivité aussi. Donc ces sujets-là, faut les mettre sur la table. Maintenant, quand on parle d'égalité femmes-hommes, ça va au-delà du salaire. C'est aussi l'accession à des postes à responsabilité. Pendant longtemps, nous n'avons eu qu'une seule femme dirigeante au sein du CAC 40, oui. Puis deux, puis trois.
Et c'est la réglementation, c'est la loi Copé-Zimmermann qui a permis d'augmenter le nombre de femmes dans les boards.
C'est très récemment qu'on est monté à 5, 12,5%. Ouais. Le taux de féminisation au sein des entreprises du CAC 40, c'est pas assez. Et dans les PME, c'est aussi une réalité. Donc oui, c'est un sujet sociétal, je dirais, qu'il faut urgemment adresser, au-delà de l'index qui a été mis en place il y a déjà quelques années.
Oui, oui. Mais ça, c'est sur la représentation des femmes dans les organes dirigeants. C'est béant, enfin, je veux dire, c'est évident. Sur la rémunération, encore une fois, est-ce qu'on est encore dans un monde où les femmes à poste équivalent sont moins payées que les hommes?
Oui, il reste le Anthony bout de discrimination que tu as évoqué, Raphaël, mais pas que. C'est aussi que malheureusement, les femmes s'orientent moins souvent vers des secteurs rémunérateurs. Par exemple, on manque de femmes scientifiques, on aimerait en avoir beaucoup plus. C'est souvent des postes qui rémunèrent davantage. Donc, quand l'INSEE dit à poste et compétences équivalentes, oui, il faut bien regarder que, effectivement, même la en amont, il y a des choix. Voilà, même oui, de l'autocensure, des fois, de la part des femmes qui, malheureusement, les empêchent d'arriver à des niveaux de salaire élevés. Juste pour revenir sur les grilles salariales, dans une vie pas si lointaine, quand j'étais encore dans le domaine public, on voit bien que appliquer des grilles à tout le monde similaires empêche complètement désormais la discrimination sur la compétence. Et ça, c'est en train d'uniformiser quand même pour partie. On ne peut pas sortir par le haut parce que les grilles sont faites de la sorte. Et puis il y a le poids de l'organisation qui fait quand même que c'est embêtant puisque ça peut créer à un moment donné des incitations assez fortes à l'idée d'être plus performant si on sait que finalement on n'en retirera pas spécialement les fruits. J'aime quelque chose d'un petit peu plus schumpeterien dans l'approche.
Oui, on se demande comment incentiver les meilleurs, quoi.
Mais complètement. Alors après, ils peuvent se revendre ailleurs.
Mais si Anthony raconte ses souvenirs, moi je peux aussi raconter mon souvenir. Une fois, j'ai obtenu, grâce à un procédé que je ne révélerai pas ici, une augmentation de salaire dans l'entreprise où je travaillais. Et mon chef m'a dit, vous vous rendez compte, maintenant vous êtes payé autant que X et Y. X et Y étaient au même niveau que moi de compétences, de formation, de tout ça. Leur seule caractéristique, c'est qu'ils savaient, c'était les derniers embauchés dans la boîte. Et je me suis dit, heureusement que j'ai obtenu cette augmentation. Et si j'avais su qu'ils étaient payés beaucoup plus, sensiblement plus que moi, je me serais battu plus tôt pour obtenir cette augmentation. Donc, voilà.
Oui. Est-ce que le texte européen tel qu'il est conçu aujourd'hui permet quand même de gratifier les salariés les plus performants par rapport à d'autres? Est-ce qu'on peut garder cet outil d'incentive?
Alors, bien sûr, on peut garder cet outil, mais encore une fois, ne nous méprenons pas, cette directive ne règle pas tout. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas au niveau attendu. Ce sujet était présenté il y a déjà 10, 20 ans comme une innovation sociale.
Oui.
C'était déjà
révolution.
Présenté comme une... Absolument. Et ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas au niveau attendu. Négocier son salaire, c'est une vraie compétence.
Oui.
Et donc, de fait, il y a un point de rupture qui se crée au moment de l'embauche, parce que certains vont être plus incisifs que d'autres. Malheureusement, on est dans une société qui est encore très patriarcale. Les femmes peuvent parfois souffrir d'un complexe d'infériorité ou un syndrome
elles
de l'imposteur.
Elles osent moins y aller, c'est ce qu'on dit d'habitude.
À tort, parce qu'elles ne sont pas moins compétentes que d'autres. Elles sont simplement invisibilisées, très souvent, par la société.
Oui, derrière, c'est des questions de management. Hein. Il y a des questions, oui, effectivement, de droit et de règles. Mais derrière, c'est des questions de management. C'est-à-dire, est-ce qu'un chef est capable de justifier le fait qu'un salarié gagne plus qu'un autre? Est-ce qu'il peut avoir cette explication avec ses collaborateurs? Est-ce qu'il est capable... En France, très souvent, on a des problèmes de management, on a des problèmes de formation de la hiérarchie. On a des gens qui ont du mal à assumer leurs décisions. Oui. Donc, quand c'est caché, tout va très bien. Quand ça se révèle un petit peu, évidemment, ça pose des questions. Derrière, je crois vraiment qu'il y a une question fondamentale de la qualité du management en France sur lequel il y aurait beaucoup à dire.
Bon, et puis...
Oui, puis la culture des objectifs est en France très problématique. Très souvent, dès qu'on met des objectifs, on dit que les salariés sont sous pression, etc. Or, ça pourrait justifier quand même en partie des écarts en disant que certains les ont atteints bien plus que d'autres. Et on sent bien que c'est quand même toujours une crispation en France, dans l'air ambiant.
Bon, il y a un objectif que beaucoup de candidats vont essayer de poursuivre pendant la campagne présidentielle, c'est rapprocher le salaire net du brut, parce qu'il y a la transparence salariale. Il y a aussi le travail qui ne paie plus. Et bien, il y a ce sondage très intéressant publié dans les Échos ce
matin. Continuez de le lire, très bien.
Cher Jean-Marc, le pouvoir d'achat est évidemment la préoccupation numéro un des Français. Or, 8 Français sur 10 ont le sentiment que les salaires en France ont augmenté moins vite que l'inflation ces dernières années. D'abord, est-ce que c'est un sentiment justifié, Anthony ?
Pour partie, ça renvoie à toute la thématique de la smicardisation de l'économie française où on voit bien que le bas de la distribution, notamment le salaire minimum, est indexé sur les prix.
Oui.
On a quand même connu des chocs de prix récemment assez importants. Les salaires qui sont au voisinage, mais à 1,5 de SMIC, n'ont pas forcément suivi la même trajectoire. Donc effectivement, il y a ce risque. Alors on parle souvent de coup d'accordéon au moment où donc les salaires se compressent quand il y a un choc inflationniste avant de nouveau se détendre. Mais on voit bien que c'est un sujet, hein, la différence entre le brut et le net. On le réglera pas, en revanche, si on ne s'attaque pas à ce qu'il y a entre les deux et ce que ça finance.
Eh oui.
Alors, il y a une partie, on nous dit, c'est du salaire différé, ce qui est pour partie vrai. Il faut poser la question aux Français de savoir est-ce qu'ils veulent s'assurer eux-mêmes ou est-ce qu'ils préfèrent un système de socialisation. Et donc là, ça
surtout quand on croit de moins en moins une retraite d'ici 10, 15, 20, 30, 40 ans. Hein.
On aime dire que c'est un choix collectif.
Eh oui.
Il faut peut-être poser la question aux Français. Et puis il y a une partie redistributive. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est qu'on a un système qui est très redistributif. Ça a ses vertus, ça a ses défauts. Mais à la fin, peut-être qu'on va aussi un peu trop loin et on fait porter notamment une charge sur le travail qui est quand même assez démesurée, en tout cas qui est plus forte qu'ailleurs, et à un moment donné peut-être que taxer un peu plus la consommation, un peu moins les revenus du travail, ça pourrait avoir du sens, parce qu'en France on met le paquet sur le travail et ça commence à peser lourdement sur les salariés.
Oui, Rokhaya Pondy, on rappelle que évidemment tout notre système social, notre généreux système social, repose quasiment exclusivement sur le travail. Je vous voyais hocher de la tête à ce que disait
bien Anthony sûr j'acquiesce au propos, puisque en réalité le problème c'est la taxation du travail. On a un travail qui est taxé, voire surtaxé, qui n'est absolument pas valorisé. Maintenant, la question qui se pose, passer d'un brut à un net avec un écart moindre, qui paye ?
Eh oui.
Qui paye ? Parce qu'en théorie, tout le monde achète, hein, tout le monde est partant. C'est un choix collectif. Je pense que si on devait faire un référendum sur le sujet, tout le monde serait d'accord. Mais qui paye ? Les entreprises qui sont déjà asphyxiées, est-ce qu'on les asphyxie davantage ? 68 000 défaillances d'entreprises en 2025.
L'année dernière, absolument.
À peu près 234 000 emplois concernés. Donc, qui paye ? Qui paye ce manque à gagner ? Qui doit prendre en charge ces écarts qu'il va falloir compenser sur la protection sociale, notamment, qui est le pilier de ce modèle social ?
On a des idées qui sortent, hein, Jean-Marc, en ce moment. Il y a Pierre Cazeneuve, le député, par exemple, Ensemble pour la République, qui lui propose un grand Big Bang. C'est, de mémoire, je ne sais plus, 300 euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour 15 millions d'actifs. Pour financer ça, et ben lui qui paye, il parle rétablissement de la taxe d'habitation, augmentation de la TVA et augmentation de la CSG, peut-être concentré sur les retraités qui ont une CSG inférieure à celui des actifs. Bon, ce grand débat, on va l'avoir pour la présidentielle, non ?
Je voudrais d'abord revenir sur le constat même.
Oui.
Ça fait pas très longtemps que le salaire moyen, alors il y a différentes mesures du salaire, mais ça fait pas très longtemps que le salaire moyen a dépassé en pouvoir d'achat son niveau d'avant Covid.
Ah. Hein ?
Donc ça veut dire qu'il y a des millions de femmes et d'hommes aujourd'hui encore qui ont un pouvoir d'achat avec un salaire qui est inférieur à celui de 2019. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ressentir une baisse du pouvoir d'achat, c'est vrai. Même si, heureusement, parmi les salariés les moins bien payés, l'indexation du SMIC a permis d'éviter que ça se passe. Mais au-dessus, comme le disait Anthony, il y a des millions de femmes et d'hommes qui ont effectivement encore aujourd'hui une situation financière qui est moins favorable que celle d'il y a 6 ans maintenant.
Et
donc,
oui.
Voilà.
Ça pèse.
Et voilà.
Ça pèse. Ben oui.
C'est normal que ça pèse. Alors ensuite,
est-ce que le salut viendra par un grand jeu de bonneteau fiscalo-social en redistribuant qui paye quoi, en changeant la tuyauterie?
Il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on baisse les l'écart entre le brut et le net, entre le super brut net,
comme on dit, oui.
C'est les cotisations sociales. Hein. Donc, soit on diminue les prestations sociales. Hein. Alors, on peut dire qu'il y a des choses à faire sur les retraites. On peut dire qu'on pourrait organiser infiniment mieux le système de santé. Hein. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, La dépense de santé en pourcent du PIB est inférieure d'un quart à ce qu'elle est en France, avec une espérance de vie qui est à peu près du même ordre. Donc, ça fait trois points.
Il y a des marges de progression de l'efficacité de l'euro dépensé, ce que vous nous dites,
Jean-Marc. Je suis schématique, mais bon, voilà. Les retraites, il y a sans doute beaucoup de choses à faire. Moi, je comprends toujours pas pourquoi il y a une. Alors, je sais historiquement d'où c'est venu, mais je comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui on a encore un écart sur la CSG pour les retraités et pour les actifs. Ça me paraît totalement
historiquement, d'où ça vient, c'est bien de le rappeler.
Non, mais... Il y a 35 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui.
Ah, voilà, donc... C'est parce que le niveau de vie des retraités était bien inférieur il y a quelques décennies.
Non, c'est plus compliqué que ça. C'est parce que quand on a créé la CSG, les
Michel
salariés...
Rocard.
En 1991, les salariés ont bénéficié d'une baisse de cotisation et que, dont évidemment ne bénéficiaient pas les retraités. Et donc, en échange, on leur a donné ça. Voilà, donc... Bon, mais c'était il y a 35 ans, on aurait pu le supprimer ce dispositif en sifflet, on n'a rien fait là-dessus. Donc, il y a joué sur les dépenses. Ensuite, il y a joué sur les recettes. Moi, je pense que dans les dépenses, dans les cotisations sociales, normalement, c'est censé financer de l'assurance.
Oui.
Or, là-dedans, on a sans doute entre un tiers et un quart qui relève de la solidarité. La solidarité, ça relève pas de la cotisation. La solidarité, ça relève de l'impôt.
Oui.
Donc, ça doit être basculé sur l'impôt. Mais faire le tri là-dedans, c'est évidemment quelque chose de très compliqué. On en revient à l'idée de Big Bang. Alors, vous pouvez appeler ça de la tuyauterie socio-fiscale, mais si on veut qu'il y ait moins d'écart entre le brut et le net, soit on diminue la protection sociale, soit on augmente ce qui est.
Oui, mais là, ce que dit Rocaille, c'est qui paye. Ça veut dire que c'est les plus modestes qui payent, Jean-Marc.
Non, à ce moment-là, c'est l'ensemble des Français, c'est-à-dire pas seulement les salariés. Il y a un très bon exemple, moi j'aime beaucoup, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé, donc je le remets dans le pot de la discussion, c'est les intermittents du spectacle.
Oui.
Les intermittents du spectacle, ça consiste à faire payer les arts vivants par les salariés du privé, qui profitent des arts vivants. Les salariés du privé, évidemment, mais aussi les salariés du public, qui ne payent pas, puisque c'est de la cotisation chômage, et puis les retraités, hein, qu'on voit très souvent dans les festivals, et y compris dans les concerts, hein, où on voit de plus en plus des sexas, voire des septagénaires, qui sont très heureux d'être
absolument.
Là. Et c'est très bien, mais
vive la culture.
Pourquoi est-ce que c'est seulement les salariés du privé qui payent ça? Là, on est typiquement dans quelque chose qui devrait basculer de la cotisation.
Oui, puisqu'évidemment, les fonctionnaires, les agents de l'État, de la fonction publique hospitalière et des collectivités ne seront jamais au chômage. Et donc, évidemment, ils ne cotisent pas.
Oui, mais ce n'est pas un dispositif de soutien au chômage. C'est un système de
financement du monde de la culture.
Aux arts vivants.
Clairement.
Et donc, ça doit basculer sur l'impôt. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup dans le système.
Bon.
En résumé, ça a été très bien dit. Il faut arriver à basculer une partie vers... la TVA, la CSG, probablement réhabiliter la taxe d'habitation. Et puis ne pas oublier, quand on parle de différence entre brut et net, qu'il est très faible au niveau du SMIC. On l'a pas dit aujourd'hui.
Ah, il y a plus que quoi, 3, 4, 5 points?
Exactement. Par contre, il est très élevé dès lors que l'on augmente assez rapidement sur l'échelle des salaires. Donc, en plus, il y a ce fameux arbitrage de, on soutient très fortement l'emploi au SMIC parce qu'on a un SMIC qui est très élevé, hein. Le plus élevé de l'OCDE en proportion du salaire médian. On dépasse 62%.
Oui.
Et à l'inverse, on
63,5.
Pour financer ça, on surtaxe le travail qualifié. Là aussi, c'est pas génial, hein, parce que ça pousse l'économie française à être plutôt bas de gamme. Et à l'inverse, on la désincite à monter en gamme puisque le travail qualifié est très pénalisé. Donc, il y a ces deux points-là. C'est d'une part basculer probablement plus de financement vers des assiettes plus larges et qui pèsent moins sur le travail, et puis probablement revoir cet équilibre de cotisation sur l'échelle des salaires, qui est quand même très progressive en France, avec un coin socio-fiscal qui devient prohibitif dès lors qu'on arrive à 2-3 SMIC.
Oui, je crois que c'est même 67,5, c'est-à-dire que le salaire minimum en France est 2/3 du salaire médian, hein, ce qui crée...
Et on comprend bien pourquoi on le fait.
C'est crispation, hein.
Oui. On veut un salaire minimum très élevé, et en même temps, on comprend bien qu'avec un salaire minimum très élevé, ça crée du chômage à ce niveau-là, parce que la productivité n'est pas équivalente, et donc forcément, on est obligé de le subventionner en quelque sorte. Enfin, c'est encore une fois, on se détourne du marché, et le salaire minimum n'est pas une réalité de marché. Alors, après, on peut l'accepter ou non, mais ça crée de la distorsion.
Ah non, le salaire minimum, il est indexé sur l'inflation, comme tout un ensemble de dépenses sociales, les retraites, les allocations familiales, les minima sociaux. Et quand on est en période d'inflation, comme nous le sommes aujourd'hui, de retour de l'inflation, eh bien tout cela coûte très, très cher, notre modèle social. On va en parler, hein, un modèle hors de contrôle, ça sera la question qu'on va se poser après cette coupure pub. Et puis on reviendra sur les prévisions de croissance de l'INSEE. Alors la croissance passée, qui est bien meilleure, la croissance à venir, ça va être plus compliqué. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent Les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h58, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec aujourd'hui Rokhaya Pondy, présidente de l'Ami Liaison, Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos, et Anthony Morlaix-Lavidali, économiste chez Rexecode. Nous allons parler, après le pouvoir d'achat, modèle social. Notre modèle social est-il hors de contrôle? Alors, le modèle social, c'est aussi un peu de pouvoir d'achat, c'est aussi du salaire différé hein, pour les Français, mais... on a énormément de prestations indexées sur l'inflation. Et quand l'inflation repart à la hausse, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien la facture coûte très, très cher aux finances publiques. La Commission européenne a déjà tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Si on ne fait rien, c'est 5,7% de déficit. Je rappelle que l'objectif cette année, c'est 5,1. On dérape à 5,7 l'année dernière. On apprend, selon nos informations BFM Business ce matin, que ce dérapage en France, il ne serait pas de 5,7 en réalité, mais de 6,2%. Ce qui est quand même absolument colossal. Je me tourne vers vous, Anthony Morlaix-Lavidali. Il y a moins de deux mois, je veux dire fin mars, on était sur des bonnes nouvelles annoncées par le ministre des Comptes Publics, après les comptes de l'INSEE, qui nous disaient « Ah, on n'est pas à 5,4, on n'est qu'à 5,1% en 2025 ». On se retrouve deux mois après et on nous explique que ça va repartir à la hausse à 6,2%. Qu'est-ce qui se passe ?
Ça, c'est un peu la problématique du yo-yo. C'est-à-dire, un coup, le gouvernement nous dit les finances publiques sont tenues. On comprend pourquoi. Hein, il y a des besoins de crédibilité qu'il faut afficher vis-à-vis du marché.
Oui, puis tenues, pardon, mais en étant le dernier de la classe européenne.
En dernier de la classe. Mais on nous dit pas de risque de dérapage très fort des finances publiques. Et puis, dès qu'il va falloir faire passer soit des hausses d'impôts, soit des baisses de dépenses, on dit oula, attention, à politique inchangée. C'est-à-dire, si on ne fait rien, on va dans le mur. Donc ça, c'est aussi pour pouvoir justifier...
Ça veut dire qu'on fait de la politique avec ces chiffres ?
Bah, probablement, mais à un moment donné, la crédibilité, elle peut être attaquée. C'est-à-dire, il y a deux mois, même si on a un choc entre-temps et qui impacte la croissance, on va en parler, mais pas non plus dans des proportions. Enfin, on n'est pas en train de sombrer dans une récession immédiate.
On va y venir.
Les prévisions de croissance sont revues, mais pas non plus dans des proportions qui sont gigantesques. On ne peut pas perdre un point de PIB sur le déficit comme ça en un claquement de doigts. Donc là, c'est un peu une problématique, je trouve, de communication du gouvernement. Et plus fondamentalement, ça, c'est vrai que c'est un sujet en France, c'est que ce qu'on appelle la politique inchangée, c'est-à-dire si on ne fait pas de réforme, le déficit tend à se creuser. Et ça, c'est un problème parce que on a indexé tout un tas de prestations, on parle du salaire minimum, mais c'est vrai de la plupart des prestations sociales, et on fait comme si c'était indu. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ce n'est pas le cas. Et ça met d'ailleurs le politique dans une situation très difficile, puisque le politique ne passe son temps à devoir faire des économies, puisque comme on indexe tout, c'est lui qui tout le temps doit se présenter en disant non, il faut mettre un coup de rabot. Ça serait plus simple si, par définition, ça n'était pas indexé, et il allait voir les Français en disant une année sur deux, ou peut-être tous les ans, mais je réindexe, parce qu'au moins il annoncerait une bonne nouvelle. Là, le politique, quel qu'il soit, passe son temps à annoncer des mauvaises nouvelles, parce qu'on a créé un système qui est une pente glissante infinie. Et ça, c'est très problématique. Il faudrait réformer en profondeur le système, parce que c'est pas tenable dans la durée.
On a l'impression de voir Cronos dévorer ses enfants, Jean-Marc Vittori.
Wow.
Une sorte de monstre qui n'arrêterait pas de gonfler sous la pompe de l'inflation. Et effectivement, en face, c'est des coups de rabot budgétaires sur les missions de l'État. Là, on cherche encore 6 milliards d'économies pour compenser le coût de la guerre, mais aussi les dépenses sociales qui dérapent. Et du coup, c'est l'innovation, c'est l'école, c'est même l'armée.
Et la justice, alors même que.
Et la justice, alors qu'on est en pleine polémique actuellement. Je veux dire, combien de temps on peut continuer à fonctionner dans un système comme ça, qui semble hors de contrôle aujourd'hui, hein ?
Ouais, on se raconte des histoires de manière tout à fait impressionnante. Déjà, la première chose moi qui me frappe, c'est que maintenant, on a l'impression que la cible, c'est un déficit de 5% du PIB. Je rappelle qu'il y a 10 ans, on considérait que c'était 3%, et on disait on va passer sous 2, on va être à 2,9, ça va être bien. Et là, maintenant, la cible implicite qu'il y a dans le débat public, c'est 5%.
Et on rappelle que 3%, c'est uniquement pour stabiliser la dette.
Oui. Et donc ça montre un sérieux dérapage. Ça ne poserait pas de problème si on avait une croissance qui était sensiblement plus forte, mais c'est pas vers là qu'on s'oriente. Première chose. Deuxième chose, c'est la pente que décrit Anthony, qui est tout à fait majeure. Enfin, on peut résumer ça de manière simple. Chaque année, les recettes augmentent mécaniquement de de 20 milliards. Hein, bon, si on corrige.
Oui, c'est tendance. Un point de PIB. Non, mais on est sur un point de PIB de hausse de recettes,
milliards de hausse de dépenses. Donc chaque année, on est obligé de trouver 20 milliards et qu'on trouve un peu à l'arrache à chaque fois, en rabotant. Et on a tellement raboté qu'il y a des endroits où on est à l'os et où ça fait très très mal maintenant. On a une machine qui est impilotable. Je rappelle que l'une des réformes, l'un des buts de la réforme des retraites, qui était la réforme des retraites à points, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, qui avait commencé à être mise en chantier, et puis le chantier avait été cassé par l'épidémie de Covid, et puis ensuite on est passé à du rééquilibrage d'âge
paramétrique.
Le but de ce passage à une retraite à points, c'était d'avoir un système de retraite qu'on pouvait piloter. C'est-à-dire, en fonction de la conjoncture, on pouvait ajuster l'ensemble
des
dispositifs. C'est comme ça que ça fonctionne dans les pays nordiques. Quand l'économie va moins bien, les retraites vont moins bien et tout le monde trouve ça normal. En France, quand l'économie va moins bien, il faut que les retraites continuent de progresser et donc, évidemment, on creuse le trou. Donc, on a un système en France qui est impilotable et, évidemment, une dynamique politique qui ne favorise pas la reprise en main des affaires.
Un système impilotable, nous dit Jean-Marc Vittori. Pardon, mais Rokhaya Pondy, il en fonce droit dans le mur, donc.
Moi, je suis d'accord avec Sisi. C'est que, au-delà d'être impilotable, il est sclérosé. Ça fait 2 ans qu'il ne se passe absolument rien sur les sujets majeurs qui nécessitent une réforme. On est sur des modèles parfois obsolètes, parfois complètement inadaptés. C'est une question de fondation. C'est-à-dire que vous construisez une maison, vous décidez qu'elle aura 1 ou 2 étages, vos fondations, vous les faites en fonction de 1 ou 2 étages. Vous ne les faites pas pour un immeuble. Donc, on a mis des surcouches. On se retrouve aujourd'hui avec un millefeuille qui ne fonctionne plus. Je suis d'accord, il faut des réformes en profondeur. Simplement, on a un agenda politique et moins d'un an des élections, on sait qu'il ne se passera rien.
Et il ne se passe plus rien depuis la dissolution, donc si je vous entends, c'est ça. Hein. Mais voilà, c'est des fondations qui datent de 1945-48, avec une démographie qui n'avait rien à voir avec celle qu'on a aujourd'hui, et donc il va falloir revoir, donc tout casser et tout refonder. Quoi.
Aujourd'hui, on a le vieillissement de la population, on a le taux de natalité en baisse, on a des problèmes de partout. Donc, effectivement, il faut casser le modèle, le réinventer à l'ère de tout ce qui se passe en France et ailleurs dans le monde. L'avènement des nouvelles technologies, l'obsolescence des compétences. On parlait tout à l'heure de performance, mais vous savez, la compétence qu'acquiert un salarié, il y a 30 ans, elle était acquise pour une durée de 30 ans.
Eh oui.
Maintenant, c'est 2 ans. L'obsolescence, c'est programmé, c'est 2 ans. Donc la gestion des talents, qui est quand même le capital qui crée de la valeur et qui crée de la richesse, il est en danger.
Anthony,
pour revenir sur notre système qui est impilotable, ce qui est amusant, c'est que ce qu'on appelle le politique inchangée, c'est-à-dire la norme, c'est d'augmenter les dépenses de 40 milliards l'an. Comme si l'indexation augmentait les dépenses publiques.
Ce qu'on appelle le tendanciel, c'est l'augmentation automatique.
C'est terrible de faire ça.
Ce pilotage automatique est dingue.
Quoi qu'il arrive, augmenter les dépenses publiques est normal. C'est-à-dire que c'est un état de l'art. Mais non, on devrait sacraliser chaque euro dépensé supplémentaire et ensuite en discuter. Mais forcément, et ça met le politique un petit peu dans le corner, parce que lui, il doit annoncer en permanence des mauvaises nouvelles en disant « Ben non, il faut que je tienne la dépense ici. » Parce qu'on a rendu normal l'augmentation permanente des dépenses. Je pense que là-dessus, il faut absolument revenir sur ces indexations, parce que sinon, peu importe le politique au fond, il ne peut pas en permanence annoncer des mauvaises nouvelles, parce que c'est intenable dans la durée, vous devenez monstrueusement impopulaire, et c'est quand même plus facile de désindexer et de dire chaque année je réindexe, là vous êtes nettement plus populaire, que de dire, ah mais non, là on va serrer, là aussi, enfin bon, moi je pense que même politiquement, c'est intenable cette affaire.
Oui. Et si on revient sur l'exemple des retraites, jusque en 1993, les retraites étaient indexées sur le salaire.
Le pouvoir d'achat, sur l'augmentation du pouvoir d'achat.
Et donc on disait, à un moment on s'est rendu compte que c'était plus possible, et donc on a dit on va indexer sur les prix, ce qui paraissait beaucoup plus raisonnable.
Oui.
Mais ce qu'on a vu dans les années 2020, c'est que quand on indexe sur les prix et pas sur les salaires, on peut avoir des retraites qui augmentent davantage que les salaires, parce que les salaires ne suivent plus les prix.
On est sur la deuxième crise inflationniste.
En 1993, on n'imaginait pas que les salaires puissent ne pas suivre les prix à un moment donné. Dans les années 2020, les salaires n'ont pas suivi les prix, donc les retraites ont augmenté plus que les salaires, ce qui, évidemment, a priori, est totalement aberrant. Et donc, il faudrait un autre mécanisme d'indexation des retraites. Ça fait partie du paquet de réformes qu'évoque Anthony.
C'est vrai que l'ironie du sort, c'est qu'on a indexé les retraites sur les salaires à l'époque où il y avait de la productivité, et on s'est mis à indexer sur les prix quand il n'y a plus de productivité. Donc finalement, c'est doublement perdant pour les finances publiques. C'est-à-dire,
on est complètement à contre.
C'est terrible. C'est vraiment. Mais ça partait d'une bonne intention, mais malheureusement, on n'avait pas vu que la productivité pouvait parfois décevoir autant et aller moins vite que les prix.
Mais ça veut dire que ça va être le débat du prochain budget là, si je vous entends tous ici autour de la table. On vient de geler quand même. On vient de désindexer un système. Alors c'est pas un système social, mais on vient de désindexer les allègements de charges sur les bas salaires, justement. Ce qui a fait râler tout le patronat, 2 milliards d'euros d'économies.
Attendez, avec les allègements de charges. Les allègements de charges, ça veut dire augmenter des
impôts. Ça veut dire augmenter les impôts. Alors, c'est ce qui est
travail.
Est-ce qu'on n'est pas là, en réalité, en train de préparer le terrain à une désindexation du coût des minima sociaux pour dire, regardez, on l'a fait pour les entreprises avant l'été, bah à l'automne, durant la discussion budgétaire, on va devoir serrer la vis parce que ça part complètement dans le décor. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre?
Ben ça serait bien, mais on a quand
une
même
des indexations. Des dépenses sociales, Anthony.
On pourrait l'espérer, mais on a un goût pour l'impôt qui est infini. Donc la réalité, c'est que c'est toujours plus facile d'augmenter le coût du travail et de dire que ça n'aura pas tant d'effet que ça, parce que ça, à chaque fois, c'est que quelques milliards. Mais on est toujours sur cette pente glissante de plus de prélèvements et malheureusement une dépense qu'on a beaucoup de difficultés à contraindre, en tout cas dans son taux de croissance. Donc je l'espère, mais j'en suis pas convaincu.
Quoi il va ressembler ce budget, Jean-Marc?
Le débat du budget, ça devrait être comment est-ce qu'on reprend en main des comptes publics qui dérivent naturellement, évidemment. Et le débat, ça va être quel est celui qui va émerger comme candidat pour l'élection présidentielle.
Bah oui.
Et donc, je pense que ça va être très très compliqué. Je suis pas sûr qu'on terminera l'année avec un budget. Je pense qu'on va, on risque assez fortement d'avoir une loi spéciale
et jusqu'à la présidentielle.
Qu'est-ce que vous voyez comme autre scénario? Vous imaginez des députés se mettre d'accord sur un projet de budget en janvier 2027?
Moi, depuis le début, je plaide pour des ordonnances. On passe en force. Le Parlement doit sauter à quelques mois des élections présidentielles. Finalement, c'est peut-être le moment de faire des économies massives. Comment vous anticipez ce budget à venir, Rocaïa?
Non, mais on voit bien aujourd'hui que bricoler ne suffit plus. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. On parlait de serrer la vis. C'est plus que serrer la vis. Là, faut tout démonter et refaire. À un an des élections, moi je n'y crois absolument pas qu'on aura un budget qui soit tangible, qui soit à la hauteur de l'attendu. Le modèle ne fonctionne plus. On n'a plus les moyens de se l'offrir. Pendant longtemps, il a été envié, ce modèle français. Envié, on en parlait partout. Aujourd'hui, il est décrié et par les Français les premiers. Ouais. Sauf que personne n'est prêt à y renoncer.
Oui.
Personne ne veut. Alors, on
les
veut la même
chose.
C'est souvent
chez le voisin. Hein,
on veut la même chose à moindre coût. On veut toujours le même niveau de prestation, d'accompagnement, j'allais dire, dans des moments clés de vie.
Oui.
Puisque finalement, la protection sociale, encore une fois, là pour prévenir des risques de la vie, mais aussi nous accompagner dans les moments clés. On en veut plus, mais à moindre coût. Ça peut pas fonctionner.
Bon, est-ce qu'il n'a pas de prix, n'a pas de valeur, comme je le dis souvent aussi. Mais là, c'est toute une culture qu'il va falloir changer. Bon, on espère que les experts vous aident en tout cas à y voir un tout petit peu plus clair dans ce qui ressemble quand même à un marasme. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, Anthony. Et vous êtes un peu le lanceur d'alerte de bonnes nouvelles cette semaine. Si, si, si. Ne faites pas les faux modestes. C'est vous qui avez trouvé dans la révision des comptes de l'INSEE publiée il y a une semaine une révision de la croissance en 2022-2023. Mais alors, spectaculaire, dites-nous.
Oui, alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder au mois de mai quand l'INSEE publie non pas seulement les comptes trimestriels, mais aussi les comptes annuels pour voir, regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé.
Oui.
Et l'INSEE révise jusqu'à année N-2. Donc ça permet de retrouver un peu de profondeur historique. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur une période des 25 dernières années, depuis le début des années 2000, l'INSEE a une tendance à réviser toujours un petit peu à la hausse la croissance une fois qu'elle intègre les données microéconomiques, c'est-à-dire notamment les liasses fiscales d'entreprise. Et là, ce qu'on a eu sur la croissance 2022 a été révisée à la hausse de 0,2 points, mais la croissance 2023, c'est assez spectaculaire, parce que corrigé des jours ouvrés, on est passé en première estimation de 0,9 à 1,9%.
C'est dingue.
Et sur 2024, c'est complètement dingue, et de 1,1 à 1,4% sur 2024. Alors d'où ça vient? Essentiellement d'un secteur. Parce que faudrait pas non plus, on a entendu virevolter quelques critiques sur l'INSEE, je trouve que l'Institut National de Statistique...
Quand même, on a parmi les meilleurs statisticiens au monde.
Exactement.
Hein, c'est une maison respectée.
Et c'était sincèrement compliqué, parce que quand on ouvre un peu le capot, c'est un peu technique, mais je vais essayer de simplifier, c'est d'une part, ça vient d'un secteur et pas de tous les secteurs, c'est surtout l'industrie qui a été, dont la valeur ajoutée
c'est ça
a été
qui est intéressant.
Revenue massivement à la hausse. Et pourquoi? Pour deux effets. D'une part, on était dans une période de choc inflationniste. Et le partage volume-prix, quand on est en période d'augmentation forte des prix, c'est pas si simple que ça. Donc ça, le premier point, c'est de dire il y avait des difficultés à traiter les volumes et les prix. Finalement, il y a plus de volume et un peu moins de prix.
C'est aussi la crise inflationniste. Dans ce que vous nous dites là, Anthony, c'est
exactement.
Que c'est la crise inflationniste qui a brouillé toutes les pistes. Tout comme à Bercy, c'est à ce moment-là qu'on a eu des trous dans les recettes de
exactement.
40 et 20 milliards. Hein.
Tout à fait. Et l'autre point qui a été peu commenté, mais qui explique aussi pourquoi il y a plus de valeur ajoutée, c'est que les entreprises, notamment industrielles, ont fait d'énormes économies de process. À la fois, on consommait moins d'énergie pour un même niveau de valeur ajoutée et moins d'intrants parce que les intrants coûtaient plus cher. Donc, en gros, pour 1 euro de production, on a augmenté le taux de valeur ajoutée de 8% sur la période. Et ça, l'INSEE peut difficilement l'estimer en temps réel parce que c'est basé sur ce qu'on appelle les consommations intermédiaires,
oui.
qui sont des coefficients techniques qu'elle ne peut réviser que dans les comptes annuels. Et donc, elle n'avait pas beaucoup de moyens de le voir en avance. Donc, il y a à la fois eu ces gains d'efficacité du côté de l'industrie, il y a aussi eu des révisions dans le partage volume-prix. Et quand on additionne tout ça, qui était honnêtement des choses difficiles à voir, effectivement, on a plutôt des bonnes nouvelles. Et les secteurs qui tirent, c'est notamment les autres matériaux de transport avec l'aéronautique, le spatial, le ferroviaire, le naval. Ça, c'est quand même des filières en France qui, objectivement, se portent bien. Et ça nous dit qu'on a une industrie qui est encore plus hétérogène qu'on le pensait, avec des segments très dynamiques
et, oui.
et des secteurs qui, pour le coup, énergo-intensifs, eux, ne vont pas bien.
On a encore la production industrielle du mois d'avril qui est tombée ce matin et on voit la courbe des industries de transport qui, franchement, explose tous les autres. C'est le signe de quelque chose. Une production industrielle qui, au total, c'est encore plus 0,1 en avril ce matin, Jean-Marc. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a l'impression, finalement, l'économie française... On n'arrête pas de le dire, y compris sur ce plateau, hein, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont mal, etc. Elle a une résilience exceptionnelle, je trouve.
C'est pas l'économie française, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui ont énormément appris depuis 10 ans. Hein. Si vous regardez...
C'est quoi, c'est face à la crise, à cette permacrise dont on parle.
C'est cet enchaînement incroyable de crises qui les a forcés à acquérir une souplesse et une agilité qui étaient il y a 10 ans des mots que lançaient les consultants et qui sont devenus aujourd'hui des réalités très concrètes dans le fonctionnement des entreprises. Donc Brexit, premier mandat de Trump, Covid, désorganisation radicale des chaînes de valeur, vague d'inflation, invasion de l'Ukraine, blocage du détroit d'Hormuz. Et donc face à ça, les entreprises maintenant... Beaucoup d'entreprises, en particulier les grandes entreprises, ont acquis des réflexes en disant « il se passe ça, tout de suite il faut faire, on ajuste les commandes, on voit les clients, on parle aux salariés, on réorganise les voies de circulation ». Enfin, c'est tout à fait, honnêtement, c'est tout à fait...
C'est devenu un mot valise, mais elles sont plus agiles.
C'est tout à fait impressionnant. Oui, elles sont plus agiles et c'est une excellente nouvelle.
Bon.
Pour revenir sur les chiffres,
oui.
Alors j'ai vu des commentaires acerbes sur l'INSEE qui viennent de gens qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la complexité de calculer des comptes nationaux. C'est une opération extrêmement complexe. Ça fait près d'un siècle qu'on perfectionne les dispositifs, mais c'est par nature quelque chose de très complexe puisqu'on additionne des choux, des carottes, des serviettes, des torchons pour essayer de faire un chiffre à peu près cohérent. Le deuxième point, c'est que la correction la plus importante, elle a été faite en fait l'an dernier. Sur 2023, puisqu'on avait le chiffre de 2023 avait été relevé de 0,5 points, et là il était relevé encore de 0,2, mais la grosse correction c'était l'an dernier, et c'est un processus qui se fait, c'est impossible de faire plus vite vu la façon dont les données sont ramassées. On peut d'ailleurs se poser des questions parce que les données financières trimestrielles des entreprises sortent un mois et demi après la fin du trimestre, et les entreprises ont du mal à fournir une analyse fiscale. Enfin bon, je pense qu'il y a un petit problème tout de même de circuit qu'on pourrait sans doute arranger. Mais ça dépend pas de l'INSEE. Et le troisième point sur les chiffres, c'est que ça rend encore plus catastrophique la situation des finances publiques. Parce que je rappelle que on a commencé à calculer le PIB pourquoi ? il y a trois siècles, hein, on a commencé à calculer pour voir quelle était la masse de revenus sur lequel l'État pouvait prélever l'argent. Hein. L'origine du PIB, c'est ça. Et on a perfectionné le dispositif quand, ben, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Américains, l'État, gouvernement américain voulait savoir combien ils pouvaient pomper pour financer l'effort de guerre. Donc c'est absolument crucial là-dessus. Et donc la production a été plus forte que prévu, et donc les finances publiques auraient dû être.
Eh oui.
Moins pire que ce qu'elles ont été. Donc ça renforce encore, même s'il y a des histoires de partage prévolu, mais ça renforce encore le sentiment d'incurie que dégage la vision des finances publiques.
Mais voire même un hiatus, hein, je viens vers vous, Rokhaya Pandi, mais Anthony, d'abord, il y a quand même un hiatus. Comment on a pu avoir une croissance bien meilleure que prévue et des trous de 20 à 40 milliards dans les recettes en 2023 et 2024, ça paraît quand même absolument spectaculaire.
Il y a en partie ce qu'Anthony expliquait sur le partage prix-volume.
La valeur n'a pas tellement été revue à la hausse.
L'État, il perçoit ses recettes sur la valeur, pas sur le volume, pas sur les prix.
Donc, on rappelle que valeur, c'est y compris l'inflation, le volume, c'est on déflate les prix de la hausse des prix.
Ça renvoie à un problème de fond de la France, c'est que c'est jamais le bon moment de faire des économies ou de faire de la consolidation budgétaire. Donc, on se dit toujours que la croissance déjà sera plus forte demain, ce qui est faux. Et en plus, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est des années plutôt florissantes, mais on le voyait sur le marché du travail. Ça, c'était quand même assez spectaculaire. On se posait la question de pourquoi autant de recrutement dans l'économie française. Bah, parce qu'il y avait plus d'activité qu'on le pensait. Mmh. C'est une bonne leçon à retenir. C'est rare que les entreprises embauchent quand il n'y a pas d'activité.
Bah oui.
Donc ça, faut souvent.
Et c'est
quand
ce
même...
qui explique le maintien de l'emploi, peut-être, effectivement.
Exactement. Et le dernier point, je pense qu'il faut souligner dans les comptes, c'est la révision massive de l'investissement des entreprises. 5 points en niveau. Et ça, ça vaut le coup de réviser aussi le jugement qu'on porte sur la politique de l'offre. On a longtemps dit que quand même, on se posait des questions sur les bénéfices que ça pouvait avoir. Là, quand vous regardez désormais la dynamique de l'investissement des entreprises en France, c'est la plus sur les 10 dernières années, la hausse la plus forte de tous les grands pays de la zone euro, grosso modo.
Ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir. Hein. Alors, c'est beaucoup de services informatiques, c'est
vrai. Et c'est en train de basculer sur les dernières années, avec notamment ce qu'on a vu fleurir dans les différents PLF. Donc, il faut peut-être aussi réviser le jugement qu'on portait sur la politique de l'offre en se disant, alors, il faut la financer, cette politique de l'offre, parce qu'il ne s'agit pas de la finance à crédit aujourd'hui, mais que ça peut avoir quand même des effets très positifs, notamment sur les entreprises et sur la dynamique d'investissement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le rebond post-Covid, en fait, en termes de dynamique d'investissement, a été absolument massif. Et les industriels ont beaucoup investi. Alors, il y avait eu des dispositifs qui ont été mis en place pour eux, hein, notamment le suramortissement pour les TPE-PME pour se digitaliser. Mais ça, c'est des choses qui marchent. Donc, on devrait quand même reprendre un petit peu ces mesures en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir durablement l'investissement en France, parce que c'est effectivement à la fin la croissance de long terme.
Je voulais qu'on te dise aussi un mot de la productivité. J'ai vu un long tweet d'Éric Heyer, hier invité.
Intéressant.
Récurrent des experts, Éric Heyer, économiste à l'OFCE, invité régulier ici, qui disait que ça redessine aussi la carte de la productivité française.
Oui, ça corrige. Ben forcément, le nombre d'emplois n'étant pas révisé, si vous avez plus de valeur ajoutée, comme la productivité, c'est le rapport entre...
Parce qu'on disait qu'elle reculait, finalement...
Finalement, on est toujours sous la tendance pré-Covid, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans l'espèce d'hécatombe que l'on imaginait. Faut avoir en tête que maintenant, on est désormais au niveau de la moyenne de la zone euro. Ce qu'il faut pas oublier, par contre, en creux, c'est que tous nos problèmes ne sont pas résolus et l'Europe reste en décrochage massif sur la productivité vis-à-vis des États-Unis. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle en termes de révision, mais cette dynamique de productivité permet absolument pas de rendre soutenables nos finances publiques, par exemple. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il faut prendre à bord, mais c'est pas l'Eldorado non plus.
Vu le contexte actuel, Rokhaya Pandi, on a envie d'investir quand on est chez l'ami.
Alors, investir, tout dépend où et sur quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est que les entreprises, on les côtoie beaucoup. Chez l'AMI, ce sont une partie de nos clients qu'on adresse, tout secteur confondu. Et cette notion sectorielle, hein, elle est vachement importante parce qu'effectivement, les écarts existent entre secteurs d'activité.
Bien sûr.
On citait tout à l'heure les secteurs qui se portent bien, le secteur du luxe, de l'aéronautique, du ferroviaire, etc. Et puis, il y en a d'autres qui souffrent un peu plus parce que tout autant que monsieur, madame, tout le monde, ils subissent aussi le coût de l'énergie qui augmente. Donc, les boîtes de transport, c'est compliqué pour elles. Hein. Ça l'est. Et puis, la deuxième chose, c'est que, bonne nouvelle, oui, pour autant, ça ne change rien au quotidien des Français et au quotidien des PME. On a toujours ce sentiment de déclassement qui subsiste, même si l'économie montre des signaux de résistance, de résilience. Voilà, bonne nouvelle à nuancer
oui.
De mon
non,
point
mais c'est
de vue.
Ça, il faut un peu rentrer dans le détail, effectivement, parce que ce dont on parle là quand même beaucoup, c'est d'un risque de récession technique maintenant, hein, parce que il y avait les bonnes nouvelles pour 2023-2024, mais dans les révisions de l'INSEE, il y avait aussi le premier trimestre cette année. On pensait avoir une croissance zéro, et finalement, c'est une croissance de moins 0,1, Anthony.
Ouais, là, on rentre dans le dur. C'est ça le sujet.
Le pire est à venir.
C'est toujours difficile, oui, de se dire finalement, on allait mieux hier, et là, on est en train de basculer. D'ailleurs, le marché du travail le dit bien. On se disait, bah, comment se fait-il que les entreprises embauchent autant en 2023-2024? Bah, là, c'est juste plus le cas. On est en train de détruire de l'emploi en net, notamment dans le secteur privé. Le taux de chômage remonte. Effectivement, on sent bien que le reste de l'année va être compliqué et ça va probablement mordre aussi sur 2027. Donc là, on est parti sur au moins deux années où la croissance elle risque d'être assez faible. D'une part, parce que l'industrie va se mettre à souffrir, mais on voit aussi que dans les services, notamment ceux qui adressent les consommateurs, c'est en train de déguster. Donc c'est sûr que là, l'économie française est en train de basculer dans une zone où ça va être difficile, notamment de consolider les finances publiques. Avec peu de croissance, bon courage quand même.
Bon, ce sont les hausses d'impôts hein, pour corriger les déficits.
Oui,
comment vous voyez l'avenir, Charles?
La France n'est pas la seule, et elle n'est pas la seule aussi avec des problèmes de chiffres. Je voudrais vous rappeler ce qui se passe en Irlande. Hein. Nos amis irlandais, ils avaient sorti un PIB au premier trimestre 2026 avec une baisse de 2%. Ils ont révisé hier. Finalement, ce n'est pas une baisse de 2%, c'est une baisse de 12%. Voilà, donc
j'avais raté ça.
Ceux qui critiquent l'INSEE devraient aller voir ce qui se passe dans l'Office statistique.
Hey, quand je me compare, je me console.
Alors, c'est évidemment que c'est très compliqué parce qu'ils ont une partie importante des revenus qui vient des multinationales.
Oui, c'est ça, hein, la tech notamment.
Donc, c'est très, très compliqué à suivre. Mais la baisse du PIB irlandais au premier trimestre risque de faire tomber la zone euro en récession, de faire baisser le PIB de la zone euro dès le premier trimestre.
Oui, mais c'est ça, c'est l'histoire notamment des multinationales et des GAFAM avec leurs histoires de transfert de revenus. Il va peut-être falloir à un moment donné sortir l'Irlande des statistiques
de la moyenne zone
euro parce
que ça brouille complètement,
la lecture, et ceux qui n'ont pas le petit réflexe de corriger, malheureusement, vont se laisser à dire que voilà, la zone euro est en récession dès le premier trimestre. C'est sûr qu'à moins 12, même si c'est un petit pays, la contribution fait largement chuter la moyenne. Et on aura probablement un rebond au T2 qu'il ne faudra pas surestimer non plus. Donc ça, corrigeons quand même des fois les statistiques, des petits biais qui peuvent être introduits.
Les auditeurs des experts seront prévenus.
Voilà, ceci dit, évidemment qu'on n'est pas en pleine accélération, ça c'est sûr. On est plutôt en ralentissement. Et même si on sait maintenant qu'on était plutôt au-dessus, un peu sensiblement au-dessus de 1%, quand on est dans ces zones-là de croissance et que ça ralentit, ça devient très vite très compliqué parce qu'on n'est pas très loin de la stagnation.
Oui, ça donne un contexte quand même très particulier pour la campagne présidentielle qui s'ouvre.
Et encore une fois, quand on n'est pas très loin de la stagnation, ça veut dire qu'il y a des revenus de millions de femmes et d'hommes qui diminuent. Et évidemment, en temps de campagne, ça ne peut que crisper les relations.
Oui, et puis tendre vers les extrêmes, évidemment.
Stagnation n'étant pas récession. Je tiens à le dire parce que je trouve que là, le mot récession...
C'est bien de le rappeler aussi.
Revient, non, mais
cette stagflation, parce qu'on a aussi l'inflation qui arrive. Donc,
je préfère, parce qu'on adore dire que quand il y a un moins 0,1, non, c'est zéro. Quoi. Enfin bon, on peut s'amuser à dire, mais c'est quand même l'épaisseur du trait. Donc pour l'instant, c'est vraiment la stagnation de l'activité. On n'est pas encore dans ce qu'on pourrait appeler le négatif, où là, on a un recul massif. Parce qu'un recul massif du PIB, là, pour le coup, c'est une forte hausse du taux de chômage, c'est beaucoup de destruction d'emplois, on n'en est pas là.
C'est-à-dire qu'on a une économie qui stagne, quoi.
Voilà. Ah, c'est pas génial, hein, mais par contre, ça pourrait être bien pire. C'est aussi ça qu'on peut, on peut se dire.
C'est ce qui se passe au niveau européen, non?
Oui.
On voit aussi en Allemagne, ce qu'on voit finalement, c'est l'ensemble du vieux continent.
Évidemment, le choc est même sur l'ensemble du vieux continent. C'est différent aux États-Unis. On a une réaction encore différente en Chine, hein, mais en Chine, on voit qu'il y a une baisse massive de la consommation de pétrole. Hein, je crois 4 millions de barils par jour, c'est absolument colossal.
Ah bah, le signal prix est formidable. On vend énormément de voitures électriques et on consomme beaucoup moins d'énergie carbonée.
Dans l'ajustement, on a même une production qui morfle. Hein, donc ça va être compliqué dans les semaines et les mois à venir, c'est sûr.
Bon, quelques secteurs à surveiller, comme le disait Rokhaya Pondy. Que je remercie, présidente de l'AMI Édition, d'avoir participé à cette émission passionnante, ainsi que Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et Anthony Morlet, la Vidali, économiste chez Rex et Code. Une émission qui est disponible en podcast et replay, vous le savez, sur l'application BFM Business, sur notre site et sur toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à la consommer et à la distribuer. Tout de suite, c'est Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spéciale transmission. Quant à nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit, en direct sur BFM Business à 9h30. Très bonne journée à tous, très bon week-end, à lundi.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.